Notre Père Céleste, merci encore pour ta parole, pour tes bien-aimés qui sont là. Seigneur, nous prions que par ton Esprit Saint, que tu puisses ouvrir notre cœur et que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. OK, nous voulons continuer maintenant avec l'homme. Avec l'homme. Genèse chapitre 3, verset 17 à 18. Il a dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Donc maintenant, la malédiction est prononcée sur l'homme. C'est la malédiction ici. Les conditions ne sont plus idéales. Les conditions ne sont plus idéales. Les épines et des ronces, ça, ce n'est pas joli à voir, n'est-ce pas? Si vous avez travaillé parmi les épines et les ronces, vous savez que ce n'est pas bon. Galates, chapitre 5, verset 19 à 21, nous avons là-bas les 17 œuvres de la chair. Les 17 œuvres de la chair. Si vous avez une Bible Austervold, c'est 17. Si vous avez une Bible seconde, c'est 15. Mais selon le grec, c'est 17. Selon le grec, c'est 17. L'homme maintenant doit travailler durement. Doit travailler durement parmi les épines et des ronces. Genèse 3, 19. C'est à ta sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc avec la chute, l'homme avait perdu beaucoup. Avec la chute, l'homme avait perdu beaucoup. Mais la plus grande perte est d'être privé de la présence continuelle de Dieu. Ça, c'est la plus grande perte dans cette malédiction, dans ce nouveau état que l'homme a. La chute, la malédiction. Et nous voulons considérer la chute, la désobéissance de l'homme. La désobéissance de l'homme, c'est ça la chute. C'est la désobéissance. La malédiction, c'est la souffrance, le labeur, la tristesse et la mort. La mort joue son rôle dans la malédiction. La mort avait son rôle à jouer dans la malédiction. La mort nous attend pour terminer la malédiction. Ces choses sont les restreints que Dieu imposait à l'homme déchu afin de lui préserver sur le bon chemin. La malédiction représente la miséricorde de Dieu pour nous. Parce que nous avons échoué. Maintenant, nous sommes changés, nous ne sommes plus comme avant. Et s'il n'y a pas une freine, s'il n'y a pas une restreinte, quel mal pourrions-nous imaginer, concevoir et entrer dedans, si nous n'avons pas les restreints de cette malédiction? C'est là, c'est une freine pour imposer des limites sur l'homme pécheur à sa nature déchue. Quand nous sommes opposés par les obstacles et difficultés, nous ne sommes pas orgueilleux. Nous ne sommes pas orgueilleux. C'est ça le travail des difficultés dans notre vie. Job 33, verset 14 à 22 et 1 Pierre 4, 1 à 2. Les souffrances détruisent l'orgueil et les mauvaises tendances de notre nature. C'est ça que vous allez voir en Job et 1 Pierre. Les souffrances détruisent l'orgueil et les mauvaises tendances dans notre vie. Et après la malédiction a fait son œuvre, Dieu la bannira. Apocalypse 22, verset 2. À toi. À la fin des âges, donc Dieu va bannir, il va bannir la malédiction. Ce n'est plus valable, ce n'est plus la peine. Mais jusqu'au là, il doit travailler. On l'a vu. Les épines de notre vie sont là, permettre par Dieu pour nous changer. Pour nous changer. C'est ça le travail de la malédiction dans notre vie. Donc nous n'aimons pas la malédiction, mais la malédiction est là. C'est Dieu qui l'a placée, et ça a un travail à faire pour nous. Nous n'aimons pas la malédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime la malédiction? Non. Mais Dieu merci pour la malédiction. C'est une relation d'amour-haine. Vous voyez? Mais c'est Dieu qui avait préparé cela pour nous. Et nous devons accepter. OK. Les souffrances dans notre vie produira une perle. Produira une perle. Ça veut dire une chose merveilleuse. Est-ce que vous voyez la perle? Vous connaissez les perles? C'est comme un bijou, donc les femmes les aiment beaucoup, n'est-ce pas? Une perle. Et si vous avez une vraie perle, ça vient d'une huître. Voici une huître. C'est son coquille. La coquille est en deux parties, appelée valve. On peut l'ouvrir et on peut avoir l'animal dedans, qui est le huître. Et voici l'animal. Mais deux fois, comme il est en bas de la mer, il y a du sable, d'autres saletés là-bas. Quand il ouvre son coquille, deux fois, la saleté peut entrer dedans et il ne peut pas dégager le sable ou bien le morceau de choses. Et donc, quand c'est entré en lui maintenant, il ne peut plus faire sortir cela. Il commence maintenant à sécréter une fluide. Et il commence à couvrir cet morceau de sable avec cette fluide. Et donc, après un peu de temps, ça devient une perle. Ça devient une perle. C'est quelque chose qui lui irrite. Il avait ça dans son être et c'est irritant. C'est irritant. Et voilà, pour éviter le sable qui gratte, avec cette fluide, maintenant, il couvre cela et ça devient lisse. Ça devient lisse et ce n'est plus un problème, ça ne gratte plus. Ça ne gratte plus. Donc, et au début, c'est une irritation. Et dans nos vies, des fois, il y a les irritations qui viennent. Et nous ne pouvons pas nous dégager d'eux. Dieu les a placés dans notre vie. Mais que nous soyons comme le huître, que Dieu puisse faire de cette irritation une perle. Amen. Quelque chose qui est joli, quelque chose qui est bon. Voilà la perle que ce huître avait produit. Et maintenant, on ne sait pas, c'est un collier pour une femme, on ne sait pas. Voilà. Mais c'est ça le travail de la malédiction dans notre vie. Amen. Ça peut produire les bonnes choses. Et c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que Dieu a sait. Deuxième, le Seigneur avait prévenu dans ses desseins les erreurs de l'homme. On peut dire, mais Dieu, il avait un plan avant. Et maintenant, l'homme a échoué. Et maintenant, le plan de Dieu est gâté. Aïe, le plan de Dieu, ce n'est pas gâté. Ce n'est pas gâté. Donc, il a su avant que l'homme va chuter. Et son plan est avec cela en vue. Ce n'est pas lui qui nous a fait désobéir, ok? Mais il sait que nous allons désobéir. Ce n'est pas lui qui nous a fait désobéir. Mais il sait que nous allons désobéir. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est ça la préconnaissance de Dieu. Le Seigneur avait prévenu dans ses desseins les erreurs de l'homme. Dieu avait prévenu un sacrifice pour nous. On a déjà vu cela. Donc la prophétie, la tête de Satan sera écrasée. Et c'est l'homme qui a choisi un chemin très difficile. Ce n'est pas Dieu, c'est nous. Proverbe 13, verset 15. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Et voici notre rude chemin, notre rude voie. Même la malédiction restreindre une nature déchue. Encore, c'est une freine que Dieu a mis dans notre vie. S'il n'y a pas une restreint, donc nous pouvons pécher jusqu'au bout. On peut imaginer les grands mal. Et c'est la malédiction qui est là afin de vraiment nous aider. Et dans votre livre, vous allez voir plus. Vous allez voir plus. Par la mort, la nature pécheresse sera détruite. Je me rappelle très bien dans un groupe de prière à laquelle j'ai participé il y a des années maintenant, il y a plus de 30 ans. Et il y a une vieille dame qui vient de donner sa vie à Jésus. Elle avait plus de 70 ans. Et elle vient de se donner à Jésus. Donc, et à un moment donné, nous sommes en train de prier. Et elle avait crié disant que suivre Jésus, c'est très dur. C'est après quelques mois sur le mont. Mais elle avait aperçu déjà que c'est difficile de suivre Jésus. Elle dit, ah, c'est trop dur. Quand ça va arrêter? On a dit, à notre mort. Elle dit, oh. Mais pour elle, la mort n'est pas loin. Mais quand même, elle avait constaté suivre Jésus, c'est difficile. C'est difficile. Mais voilà. C'est la mort qui va détruire ce nature en nous. C'est la mort. C'est-à-dire, la mort est la fin de notre malédiction. Et le plus que nous vécons, le plus que nous voyons que notre corps c'est en train de dégrader, n'est-ce pas? C'est la malédiction. Il y a les douleurs qui viennent que nous n'avons pas eues avant. Ils disent, ah, ça vient d'où? C'est la malédiction. Il y a une faiblesse qui s'installe. On ne peut pas faire la même chose qu'on a fait quand nous avons 20 ans. On dit, ça c'est quoi? C'est la malédiction. Et nous tirons vers la fin par la grâce de Dieu. Amen. Donc Paul a appelé la mort le dernier ennemi. Amen. Mais il ne peut pas nous piquer. C'est une traverse, une transition que nous faisons de ce monde dans l'éternité. Et la malédiction va continuer jusqu'à la porte de la mort. Et dès que nous sommes de l'autre côté, c'est fini. Amina? C'est fini. Mais il doit faire son travail. Ressusciter avec un corps sans péché, glorifié, c'est ça que nous attendons. Notre résurrection. Jésus a déjà eu sa résurrection. Il a reçu son corps glorifié, sans péché. Lui qui n'a jamais péché, lui il avait un corps maintenant, comme nous allons avoir après. Ce corps glorifié. La malédiction est réellement la miséricorde de Dieu pour nous. Les épreuves nous aident par la grâce de Dieu. Et c'est l'attitude que nous voyons avec l'apôtre Paul. Quand il y a une tentation qui vient, quand il y a une difficulté qui vient, il avait accepté cela ouvertement. C'est comme il avait embrassé les épreuves. et les tentations, parce qu'il sait que Dieu a quelque chose pour lui dedans. Il y a quelque chose que Dieu voulait lui enseigner. Et quand nous arrivons à le but pour lequel Dieu a permis l'épreuve, nous serons délivrés. Amen. Nous serons délivrés. Et nous allons continuer jusqu'au quoi? La prochaine épreuve. Genèse 3:20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Et Ève veut dire qui donne la vie. Qui donne la vie. Genèse 3:21. Dieu a fait les vêtements pour Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont essayé de faire leurs propres vêtements, mais Dieu a rejeté cela et maintenant c'est lui qui a fait leurs vêtements. Il a fait leurs vêtements. Et c'est probablement qu'il a utilisé les peaux d'agneau. La peau d'agneau pour eux. Il s'agit d'un type de l'agneau de Dieu, Jésus. Hébreux 9:22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire, pour avoir la peau d'un animal, il faut tuer l'animal. Et ça, c'est important. Dieu accepte seulement ce qu'il a prescrit. Nous avons la tendance de dire, ah Dieu, je veux faire ceci, je veux faire cela. Dieu dit, non, ça, je n'ai pas prescrit cela. Il faut m'approcher selon l'ordre que je t'ai donné. Donc, nous ne pouvons pas imaginer comment nous voulons approcher à Dieu. Dieu a déjà donné l'approche, la façon, la manière que nous puissions approcher à lui. Et nous devons le respecter. Nous devons le respecter. Ok. C'est Adam et Ève furent chassés du paradis. Voilà. On a parlé des deux arbres. Il y a les deux arbres dans le jardin. Genèse 3:22-24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est une possibilité. À ce moment, si l'homme peut arriver à toucher et avoir le fruit qui vient de cet arbre de vie, maintenant il va vivre pour l'éternité dans son état pécheresse, avec cette nature déchue. C'est un vrai danger à ce moment. C'est un vrai danger. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est-à-dire maintenant, il ne peut pas approcher. Il y a même un soldat angélique qui est là. Plusieurs, il y a chérubins qui gardent le chemin de l'arbre de vie. C'est ça, l'arbre de vie. Il ne veut pas que l'homme puisse manger de cet arbre. Donc c'est la miséricorde de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et des fois, je médite et dis, mais si l'homme, il avait évité de manger le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, s'il avait laissé ça à côté, il a bien fait cela, maintenant, est-ce que Dieu va lui inviter à manger le fruit de l'arbre de vie? Amina? À un moment donné. Ok. Vas-y. Mangez. Et vivez éternellement. Amen. Oh well, c'est une question qu'on peut poser quand nous arrivons au ciel. Mais Dieu avait déterminé que l'homme devait quitter le jardin. Il ne voulait pas. Il a besoin des chérubins. Il doit placer les chérubins afin de garder le chemin. Sinon, les hommes vont chercher à retourner et entrer dans une pire désobéissance. Nous attendons notre résurrection quand nous allons recevoir notre corps nouveau glorifié. Romains 8, versets 20 à 23. Alléluia. Dieu a un plan. Dieu a un dessein. Bon, maintenant, nous voulons voir Genèse chapitre 4 et 5. Les lignées du bien et du mal. Les lignées du bien et du mal. Nous allons voir les lignées du bien et du mal. Et l'histoire de Caïn et Abel. L'histoire de Caïn et Abel. De deux fils d'Adam et Ève. Caïn et son frère Abel. Naissance, activité et religion de Caïn et d'Abel. Genèse 4, verset 1 à 2. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc c'est Caïn qui était le premier-né d'Adam et Ève. Il était le premier-né. Il était le premier-né. Et son nom, Caïn, veut dire une lance. Une lance. Et c'est Abel qui était le deuxième, né après Caïn. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Voici leur religion. Ils sont en train de faire les sacrifices. C'est leur religion ici. Verset 5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc, nous pouvons croire qu'après la chute, Dieu a ordonné à Adam de répandre le sang des animaux innocents. Ensuite, les consumer par le feu, une partie ou la totalité de leur corps, ça veut dire un holocauste. Que Dieu avait ordonné l'holocauste. Comment nous pouvons supposer cela? Well, nous avons vu que Dieu lui-même avait donné les peaux des animaux pour Adam et Ève. C'est-à-dire Dieu lui-même a tué les animaux pour avoir les peaux, afin de faire les vêtements pour Adam et Ève, pour les couvrir. Et c'est après maintenant nous voyons qu'Abel a fait un sacrifice d'un animal. Oui, il a fait un sacrifice. Donc c'est la deuxième génération après Adam et Ève. Il avait déjà cette connaissance. Il connaît le feu. C'est comme nous l'avons dit. Et le feu n'est pas une découverte. C'est un peu une découverte. Donc l'homme connaît comment faire le feu. Et il a fait un holocauste. Abel a fait un holocauste. Sans problème. Il connaît c'est le chemin afin d'approcher Dieu. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu a prescrit. Voilà. L'adoration de Dieu a toujours cette pensée, l'effusion du sang. L'effusion du sang. Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes, mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Et c'est ça, Caïn. C'est ça, Caïn. L'attitude de Caïn et Abel est différente. Caïn avait l'orgueil. Il est arrogant, sans foi. et il a donné ce qu'il veut. Il dit, ah, donc, voilà, Dieu, ce que je veux te donner, accepte-le. Mais Dieu n'a pas ordonné, mais Caïn dit, ah, il faut accepter, c'est ce que j'ai. Et Abel, il était humble, rempli de la foi, et il a donné l'offrande que Dieu veut, que Dieu a prescrit. Il y a une grande différence entre les deux. Dès le commencement, il y a deux types d'adorateurs. Dès le commencement, il y a deux types d'adorateurs. Et Caïn, il n'est pas content. On va voir bientôt. Il n'est pas content avec Dieu. Il n'est pas content avec Dieu. Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Il y a beaucoup ici dans ces deux versets. Il y a beaucoup, beaucoup dans ces deux versets. Dieu a parlé à Caïn. C'est Caïn et Dieu qui parlent ici. C'est les deux. Dieu a parlé à Caïn. Il n'a pas imaginé ces choses. Dieu avait parlé à lui ouvertement. Et la raison pour laquelle Dieu n'a pas accepté son offrande est à cause de son comportement et ses attitudes. Mais il a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est-à-dire, répondez-vous. Caïn, c'est facile, répondez-vous. Et c'est Dieu qui est en train d'étendre vers Caïn la repentance. S'il veut, il peut se repentir. Dieu n'a pas lui commandé. Il n'a pas lui condamné. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est son visage qui a battu. On peut voir quand quelqu'un n'est pas content, n'est-ce pas? C'est le visage qui est... Ah, frère, tu es content? Non! Mais même avant, il parle. On sait qu'il n'est pas du tout content. Et c'est la même chose avec Caïn. Répondez-vous, changez de cœur et de vie. Répondez-vous, Caïn. Et vous trouvez votre position de frère aîné. Il est l'aîné. C'est ce que Dieu lui a offert. Répondez-vous. Il a refusé la grâce. Il a refusé. Et frères et sœurs, c'est la même chose dans notre vie. On peut accepter ou bien refuser la grâce. Que Dieu nous tende chaque jour la grâce, la grâce, la grâce, si nous voulons l'accepter. On peut refuser. Caïn a refusé. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait refuser, c'est lui-même. Il a décidé lui-même de refuser la grâce. Si nous refusons le sacrifice acceptable à Dieu, le sacrifice de Jésus, nous serons jugés. Dieu a donné le sacrifice. Quand nous acceptons le sacrifice, nous sommes sur la grâce. Mais si nous disons non, j'ai un autre moyen, j'ai une autre façon, laisse-moi faire ceci, laisse-moi faire cela, nous ne sommes plus sur grâce. Et maintenant, sur jugement. C'est le jugement qui doit venir. Et c'est ça la leçon de Caïn pour nous. Si nous refusons le sacrifice acceptable à Dieu, nous serons jugés par lui. Justement, jugés par lui. Il n'a pas repenti, et qu'est-ce que se fait? Maintenant, la haine a rentré dans son cœur. Maintenant, il haït son frère. Son cœur est rempli de haine, de moins. Voilà. Et maintenant, il a dirigé cela vers son frère. Maintenant, c'est Abel qui est le problème. Ce n'est plus lui. C'est Abel qui avait le problème. C'est Abel qui avait le problème. Il était irrité contre son frère, contre Dieu. Mais selon l'hébreu, c'est plus fort. La colère ou bien être courroucé. Ça, c'est plus que irrité. La colère. La colère. Et nous devons garder notre cœur contre la colère. La colère peut nous détourner de la bonté de Dieu pour notre vie. Nous pouvons entrer dans une colère et dire les choses qui vont couper notre vie en deux. Dans un clin d'œil, on peut prononcer les choses qui vont couper notre vie en deux et on ne peut pas reprendre. Et Dieu dira, OK, à cause du colère. Colère. Frères et sœurs, que Dieu nous garde cela. On peut poser les actes, on peut prononcer les propos qui vont vraiment avoir un impact dans notre vie pour l'éternité. Pensez qu'après, on peut redire, ou bien reprendre, ou bien retirer, et voir que ce n'est pas possible. On a prononcé les choses et Dieu les a gravées dans le pierre. Et ce n'est plus une question de pardon. C'est une question de jugement. Caïn tue Abel. Et la malédiction de Caïn. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et c'est le premier meurtre dans la parole de Dieu. Tout de suite, la deuxième génération, conçue dans le cœur de Caïn. Entre deux frères dans une famille, entre deux frères dans une famille. Le premier deux frères, l'un tue à l'autre. Les deux, Caïn et Abel, les deux lignées spirituelles dans le monde. Ils représentent ces deux lignées que nous allons étudier, que nous allons voir. Deux lignées spirituelles dans le monde. La lignée de Caïn remonte à Satan spirituellement. 1 Jean chapitre 3 verset 10. La lignée de Caïn remonte au Satan spirituellement. 1 Jean chapitre 3 verset 10. Il a rejeté la grâce et maintenant Satan a rempli son cœur et il avait agi selon cela. Dans le livre de Jude, Jude a appelé ceux qui sont de cette lignée des impies. Des impies. Jude, chapitre 1, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. La voie de Caïn. Dans le Nouveau Testament, Jude a utilisé la voie de Caïn pour nous montrer une sorte de jugement que Dieu a réservé pour les impies. Ça, c'est du côté Caïn. Maintenant, nous voulons voir Abel. Nous voulons voir Abel. La lignée des justes. La lignée des justes. Jésus avait parlé de ce lignée. Abel, la lignée des justes. Et nous voyons en Matthieu 23, verset 35, « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Et c'est ça le témoignage de Jésus sur la vie d'Abel. Quel honneur. Amen. Quel honneur. Jésus lui-même a prononcé lui juste. Abel est juste. Et en même temps, Jésus a validé toute la parole de Dieu de Genèse à Chronique. Donc, 2 Chroniques 24, verset 20 à 22, jusqu'au 22, nous voyons l'histoire de Zacharie. Donc ça, c'est la Bible de Jésus. Ça commence à Genèse et à son époque, ça termine avec 2 Chroniques. Donc il avait validé toute la parole de Dieu, la Bible, que Jésus même a utilisée à son époque. Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. Frères et sœurs, que nous agissons selon la foi. Amen. La vie et le sacrifice d'Abel étaient acceptables au Seigneur. Et pour cela, il a été tué. Pour cela, il a été tué. Le jugement éternel sur Caïn. Le jugement éternel sur Caïn. Genèse 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Encore Jésus, il sait tout. Ok? Dieu, il sait tout. Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un utiliser cette phrase avant? C'est-à-dire, ce n'est pas mon travail. Mon frère, il n'est pas mon travail. Caïn a menti directement à Dieu. C'est le mensonge qu'il a prononcé. Donc, il a perdu le sens, sa sens. Il n'a plus la crainte de l'Éternel. Si on peut mentir à Dieu, ça, ce n'est pas la crainte de l'Éternel. Et il ne regarde pas la vie de son petit frère. Il est le fils aîné. Et c'est lui qui doit s'occuper de sa famille, n'est-ce pas? C'est lui qui doit faire et garder ses frères et ses sœurs. Il est le aîné. Mais il n'a pas eu le pitié pour son frère, son petit frère. Il est jaloux. Car son sacrifice a été accepté. Parce qu'il avait donné ce que Dieu veut. Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Nous voyons cela en Lévitique 17, verset 11. Car l'âme, Louis II dit, car l'âme, mais on peut mieux dire la vie, car la vie de la chair est dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. Dans notre sang, il y a tout. Il y a tout qu'on a besoin pour la vie. Si vous êtes privé de votre sang, vous allez mourir. Quand nous sommes malades, nous allons au laboratoire et faire quoi? Une analyse de sang, n'est-ce pas? Et maintenant, les techniciens, ils peuvent regarder ça. Ils peuvent... Le sang parle. Ça parle de notre maladie. Si vous avez eu une crise cardiaque, le sang peut indiquer cela. Il y a les choses dans le sang qui va indiquer que vous avez eu une crise cardiaque. Donc le sang parle. Il y a tout dans le sang. Il y a la vie dans le sang. Versets 11 à 12. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabonde sur la terre. Donc nous voyons ici que Caïn doit subir à trois jugements. La terre ne donnera plus ses fruits. Mais il est un cultivateur. On peut dire pourquoi Dieu a refusé. Il est un cultivateur, il est un fermier. Pourquoi Dieu a refusé? Donc le prémisse, on peut dire, de son travail. Dieu n'a pas demandé le fruit de son champ, il a demandé le sang. Le sang. Il peut échanger avec Abel. Abel, voici mon blé. Il faut prendre mon blé et donne-moi un agneau. Et moi, je vais aller maintenant faire un sacrifice que Dieu veut. Que Dieu veut. Il sera un fugitif. Fuir afin de sauver sa vie. Il doit fuir afin de sauver sa vie. Et il sera un vagabond. Il alla sans but. Il alla sans but. Il tourne à gauche et à droite. Ça ne fait rien pour lui. D'un côté ou l'autre, ça ne fait rien pour lui. Vagabond. La terre ne lui donnera plus ses fruits. Il sera fugitif. Il sera vagabond. C'est un jugement terrible. Et nous voulons voir bientôt comment Caïn avait accepté son jugement. Comment Caïn avait accepté son jugement. Il a mérité le jugement. Dieu l'a prononcé justement. Et maintenant, on va voir la réponse de Caïn. La réponse de Caïn. Chapitre 4, versets 13 à 14. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Trop grand. Dieu, tu m'as dépassé. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Il ne peut pas accepter son jugement. C'est trop pour lui. Mais il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas repenti. Il dit, c'est trop pour moi. Et c'est difficile pour moi. Même les jeunes voulaient me tuer. Il a peur que quelqu'un va le tuer. Mais il n'a pas eu le même miséricorde pour son frère, pour son petit frère. Et maintenant, il avait la crainte pour lui-même. Quelqu'un va venir lui tuer. Et ça sert à l'un de ses frères. Parce que tout le monde est ses frères à cette époque, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui n'aime pas du tout qu'il avait tué son frère Abel. Il n'a pas accordé la même miséricorde pour son petit frère. Caïn a su qu'il était séparé de Dieu éternellement. Nous n'allons pas trouver Caïn au ciel. Quand nous tous nous allons au ciel, alléluia, ok, Caïn n'est pas là-bas. Caïn est à l'enfer. Séparé éternellement de Dieu. Genèse chapitre 4, verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. C'est un signe spirituel, ce n'est pas un signe physique que nous voyons. Et nous voyons cela dans la parole de Dieu, dans les autres. Il y a les autres signes. Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 7. Et Apocalypse chapitre 7, verset 2 à 8. C'est un signe spirituel. C'est un signe spirituel. C'est un signe que Dieu avait placé sur Caïn que va lui épargner de ceux qui viennent le trouver. Il ne peut pas le tuer. C'est un signe qui va éviter cela. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous venons de discuter, ce que nous allons discuter ce soir? Est-ce que vous avez des questions? Oui, Franck. Oui.
Le signe que Dieu a mis sur Caïn.
Oui.
Pourquoi ne tue pas?
Oui, oui.
À quoi ça sert? Dieu met un signe pour lui, pourquoi ne tue pas?
Mm-hmm. Donc, Dieu ne voulait pas que Caïn soit tué, comme ça, par un autre. On a dit que les autres qui puissent le tuer, c'est ses frères. C'est ses frères et les frères d'Abel aussi. Et peut-être il y a parmi ses frères des gens qui sont chauds parce qu'ils aiment Abel. Et maintenant, il veut se venger sur Caïn. Mais Dieu ne voulait pas. Il voulait épargner Caïn. Il ne voulait pas que Caïn lui-même soit tué. Donc, on voit cela. Et à cet effet, il avait placé cette marque sur Caïn que c'est fort possible qu'on ne voit pas. Mais qu'il avait une onction sur lui maintenant. Et quand les gens sont dans sa présence, il ne peut pas le tuer. Il ne peut pas le tuer. C'est ce que nous voyons aussi en Ézéchiel 9, 1 à 7. Quand Dieu avait commandé un ange d'aller dans Jérusalem et de donner une marque sur le front de chacun qui est abattu à cause de la condition d'Israël, et eux, ils seront épargnés dans le jugement. Que quand maintenant les armées viennent pour juger Jérusalem, toute personne qui avait cette marque sera épargnée. Sera épargnée. Et c'est le même genre ou bien sorte de marque que Caïn a eu. C'est pour préserver sa vie, parce que nous allons voir la raison pour laquelle Dieu voulait préserver Caïn. Donc, on va voir cela. OK? Ça va? OK, d'autres questions? Oui, mademoiselle.
Vous avez eu à dire que la malédiction est la miséricorde de Dieu pour nous.
Oui.
Je voudrais avoir une petite précision là-dessus.
Oui.
Et ce qui étant dit, que pouvons-nous donc dire de la bénédiction?
Donc, la bénédiction est bon, OK? Et nous préférons d'être bénir au lieu d'être maudit, OK? Et quand nous parlons de cette malédiction sur laquelle nous sommes tous placés, il y a toujours aussi une malédiction, ou bien on peut être maudit de plus, d'une autre sorte, et on peut avoir la bénédiction aussi. La malédiction est que nous sommes privés de ce qu'on a eu avant. Donc, l'état dans lequel Dieu nous a placés dans le jardin est la relation que nous avons eue avec Dieu avant. Donc, maintenant, Dieu, il doit changer tout cela. Il doit nous priver du jardin, et donc maintenant il avait aussi imposé ces autres choses, donc nous devons travailler, nous devons labourer, donc les femmes, il avait leur partie, les hommes, il avait leur partie. Donc Dieu a imposé toutes ces choses, parce que maintenant nous ne sommes plus comme avant. Nous avons une nature pécheresse, une nature déchue. Et maintenant Dieu a placé cette malédiction sur nous, afin de nous restreindre. C'est, nous ne pouvons pas aller trop loin dans le mal. Donc, parce que la malédiction s'impose. Donc, si nous commençons d'être trop mal, donc la malédiction s'impose sur nous afin de nous freiner. C'est ça la bénédiction que nous voyons avec cette malédiction. Mais maintenant, on peut être béni aussi à côté. Nous voyons, il y a une bénédiction aussi que nous pouvons avoir, même quand nous sommes sur cette malédiction générale qui est notre état maintenant. Tous les êtres humains sont sur cette malédiction générale. Nous ne sommes plus dans le jardin. Nous sommes privés de la présence continuelle de Dieu comme Adam et Ève a eu avant, et ainsi de suite. Donc ça, ce n'est plus. Et voici une malédiction. Mais maintenant, nous pouvons agir de sorte que nous avons une bénédiction à côté. Même nous sommes sous cette malédiction générale, on peut être béni. On peut avoir Jésus comme notre sauveur. Vous voyez, c'est comme une couche. Il y a la malédiction, mais aussi Jésus est notre sauveur. Ça, ce n'est pas une malédiction. Parce qu'il est devenu une malédiction pour moi et pour vous. Et maintenant, il y a bénédiction à côté. Mais ça ne change pas le fait que moi, je dois travailler, je dois avoir la sueur, et voilà, les épines, les ronces et tout, ça c'est toujours là. Même Jésus a subi à cela quand il est venu. Lui-même, il est sous la malédiction. Il est sous la malédiction. Et il a travaillé comme ça. En tant que l'homme, pas déchu, mais un homme qui doit lutter contre toutes les mêmes choses que nous devons à lutter, contre lequel nous tous devons lutter. Maintenant, on peut décider pour être mauvais et avoir plus de malédiction, ou bien d'être bien et avoir la bénédiction. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. Oui, Sonny.
Merci. Dans la parole, on dit que le Seigneur a défendu Adam et Ève du manger le fruit de l'arbre.
Le fruit de l'arbre, ok. Oui. Oui.
On a dit qu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont mangé.
Oui.
Non, on ne les a pas intégrés. Et si on vient voir que Abel a été tué, même si de mal explication, on dit que ça n'a pas été une mort physique.
Oui.
Qu'est-ce que spirituel que Adam et Ève?
Uh-huh.
Et si on vient voir Abel qui est mort et on a enterré, il voudrait savoir si c'est la cause de ce que Dieu avait prévu pour ses parents, si on peut le dire.
Mm-hmm. Donc la mort que Dieu avait prononcé dans le commandement, et que le jour qu'il mange le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, il va mourir. C'est ce qu'il avait dit. Mais bien sûr, ils n'ont pas tombé morts au moment qu'il avait mangé le fruit. Donc ils sont toujours vivants. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Maintenant, ils sont privés de cette relation avec Dieu. Ça, c'est un. Maintenant, ils sont privés de leur situation. Donc, ils sont chassés hors du jardin. Ça, c'est deux. Et à un moment donné, nous allons voir 960 ans plus tard que maintenant, Adam va mourir. 960 ans plus tard, Adam va mourir. Mais, donc ça c'est le mort physique. Mais il y a, comme vous l'avez déjà dit, un mort spirituel. Il y a un mort spirituel. Donc il s'impose aussi. C'est ça. Ce n'est pas qu'il est tombé mort et enterré au moment qu'il avait mangé le fruit. Mais il y a toutes ces choses qui sont arrivées à cause de cela. Et après tout, donc la malédiction a terminé avec sa mort physique, donc quelques centaines d'années plus tard. Oui.
Je veux savoir,
oui?
Est-ce que c'est un mystère?
Oui.
Ou bien comment s'explique-t-il qu'on mange un fruit dans la bouche, puisqu'on a parlé d'un fruit physique, mais on ne cache pas la bouche. On peut qu'on connaît lui et on cache la bouche.
Non, donc, il avait mangé un vrai fruit. Il y a un arbre avec un fruit. Dès qu'il mange cette fruit, ses yeux sont ouverts. Il avait maintenant une connaissance qu'il n'a pas eue avant. La connaissance du bien et du mal. Et à ce moment, le péché s'installe, il regarde, il est nu. C'est avant ça, il n'est pas au courant. Il n'est pas conscient. Ça ne fait rien pour lui d'être nu. Ni pour Ève, ni bien sûr pour Dieu. Il les a créés comme ça. Donc maintenant, c'est son optique qui avait changé. Parce qu'il avait désobéi, il avait mangé. C'est ça qui a déclenché en lui cette connaissance. Maintenant, il avait la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, il avait désobéi à Dieu, et puis le péché est là. Et c'est ça qui a tout changé. Maintenant, il avait la honte, il est nu. Et puis, même ses pensées vers Dieu et tout est changé. Voilà, ça va? Ok, oui.
Voilà, ma question, c'était sur la Bible dit que Dieu est parmi les animaux que Dieu a créés, le serpent était l'animal le plus rusé.
Mm-hmm.
Alors, le plus rusé, je veux comprendre, dans le jardin,
oui.
La chute au niveau du ciel s'était déjà faite, c'est-à-dire entre le diable et Dieu.
Oui.
Ou alors, c'est au niveau même du jardin que le diable a commencé son jeu et a flatter Ève pour qu'elle mange le fruit. Voilà, je veux comprendre cela. Si on fait une étude comparée alors, au niveau du jardin, alors c'est en ce moment même que le diable, même s'il est frustré pour devenir diable, ou l'œuvre même s'est déjà faite avant même le jardin.
C'est comme nous avons dit, donc Genèse 1 et Genèse 2a et Genèse 2b. Donc, avant le jardin, il est connu Satan rebelle. Il est Lucifer, l'archange au ciel qui avait monté une rébellion devant le trône de Dieu, dans la pleine lumière. Il a déjà fait cela avant le jardin d'Éden. Donc, maintenant, il est comme ça. Mais Dieu, maintenant, a commencé cette création que nous avons maintenant, 6000 ans dans le passé, et il avait permis, maintenant, que Satan puisse nous tenter. Et donc, Satan, maintenant, Dieu a permis que Satan vienne dans la forme de serpent et commencer son travail auprès de Ève. Dieu a permis cela. Mais c'est nous qui choisissons. Vous voyez? Mais c'est Satan, Dieu a permis que Satan puisse faire cela. Lui, il est déjà exposé, déjà manifesté. Un tiers des anges avec lui et les démons qu'on a supposés et peut-être une ancienne civilisation. Voilà, on a vu cela. Donc, mais maintenant, Dieu a permis que Satan vienne dans le jardin, dans la forme de serpent, afin de commencer à tenter de séduire Ève à manger le fruit. C'est ça. OK? OK. On va prier et vous libérer. Merci, Père, pour ta grâce ce soir encore, pour tes bien-aimés, pour ta parole. Seigneur, nous prions que tu puisses continuer de parler à nous. Seigneur, que ta parole soit riche et réelle pour chacun. Et Seigneur, nous prions maintenant d'aller avec nous, nous protéger. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.